que nous regardons. Et nous comptons sur ta grâce, sur ta force toute puissante, sur ton esprit pour nous diriger dans ce dernier entretien de cette fin de semaine. Et nous te demandons de nous préparer pour le jour de demain, qui est ton jour, le jour de la résurrection, qui nous conduira à nous souvenir de tes souffrances et de ta mort. Toi qui as dit, dans la nuit où tu fus livré, en instituant l'Eucharistie, la Sainte Cène, faites ceci en mémoire de moi. Prépare-nous à un moment de véritable adoration et garde nos pensées et nos cœurs dans l'amour de Jésus. Amen. Eh bien, en effet, nous voici arrivés au samedi soir, 4 juin 1994, où nous traitons le thème « L'Esprit de Dieu à la lumière des Saintes Écritures » et notre premier volet, la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la création. Et nous vous avions proposé la lecture du chapitre 3e de la Genèse. Vous aviez lu le chapitre 1er, le chapitre 2e, donc vous connaissez quand même bien le contexte. Et puis, tout à coup, au chapitre 3, vous avez ces paroles. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Quoi, Dieu aurait-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Qu'est-ce qu'elle a fait là, la femme? Elle a ajouté. Hein? Il n'avait pas dit de peur que vous mouriez, hein? Mais vous mourrez certainement. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, qu'il est c'est un plaisir pour les yeux, convoitise des yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, orgueil de la vie. Donc les trois convoitises dont l'apôtre Jean nous parle dans le chapitre 3 de sa première épître. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, pour qu'il en mangea avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent quoi? Qu'ils étaient nus. Avant, dans le chapitre 2e, il était dit qu'ils étaient nus, mais qu'ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas le même regard, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient revêtus de ce vêtement de gloire. Mais maintenant, ils étaient nus et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu
au milieu des arbres du jardin. Pour la première fois, ils ont eu peur. Ne frémissez pas, hein. Ben, là, ils ont eu peur. Le règne de la peur a commencé sur la terre. Pourtant, chaque fois que Dieu venait à eux, avant la chute, c'était pour leur donner une nouvelle bénédiction. De sa plénitude, nous recevons de Dieu grâce sur grâce. Puis tout à coup, on a peur de sa visite. Et l'Éternel Dieu appela l'homme. Avant, il n'avait pas besoin de l'appeler. Ils étaient ensemble. Ils allaient à la rencontre l'un de l'autre. Et il lui dit, où es-tu? Voilà l'appel de Dieu. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? C'était la parole du chapitre 2 que vous avez lu et que vous avez encore en mémoire. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Qui est responsable? C'est toi, c'est Dieu. Voilà l'homme, n'est-ce pas? On jette toujours la responsabilité sur Dieu. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, c'est passionnant de s'arrêter, de méditer sur les questions que Dieu pose. Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, ou ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête, donc la semence de la femme, et toi, tu lui briseras le talon, ou tu le blesseras au talon. C'est la première promesse de l'évangile, on appelle ça le porte-évangile. À la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari, lui dominera sur toi. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Est-ce que c'était cela que Dieu avait voulu pour l'homme? Non. Il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau, et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange et ne vive à toujours, l'Éternel, Dieu, le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient d'Éden les chérubins à la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Car je dis en passant, si l'homme pécheur avait pu prendre le fruit de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il serait arrivé? Il devrait vivre éternellement dans le péché, avec toutes les conséquences du péché. Donc c'est une grâce que Dieu soit intervenu pour empêcher que l'homme vive toujours. Donc, au fond, la mort, qui est le salaire du péché, c'est en même temps une grâce. Parce qu'il y a une fin à cela. Et nous avons une espérance. Maintenant, je vous ai demandé de lire aussi, et je crois que c'est très important que sur les cassettes aussi, vous ayez, pour ceux qui les ont, les textes et pas mes paroles. J'ai plus confiance en cette parole parce que je sais que quand je la prêche, tôt ou tard, elle ne retournera pas à Dieu sans effet. 2 Corinthiens, chapitre 3. L'apôtre Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, car vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Vous voyez que nous retrouvons l'Esprit. L'Esprit du Dieu vivant, il écrit dans nos vies, non plus sur des tables de pierre, comme c'était le cas de la loi, mais sur les tables de chair du cœur. C'est dans nos cœurs que la parole doit habiter, et non pas seulement dans les couvertures de ce livre. Nous n'adorons pas le livre, nous adorons celui qui est la parole révélée dans le livre. Mais nous bénissons Dieu de nous avoir donné cette révélation. Nous aimons le livre parce que le livre nous présente non pas un Jésus de notre imagination, mais le Jésus de la révélation. Nous adorons le Jésus qui nous a été révélé dans la parole. Et nous lisons ensuite, voyons, j'en étais à quel verset? 4. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité, oh comme j'aime ce verset, notre capacité elle vient de qui? De Dieu. On ne parle pas de nos maîtres, moi j'ai eu tel maître, etc. Notre maître c'est le Seigneur. N'appelez personne votre maître. Le seul maître c'est le Seigneur. Mais notre capacité vient de Dieu qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres. Est-ce que Paul dit « je me suis rendu propre » ? Non. Qui est-ce qu'il a rendu propre ? C'est Dieu. Qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tu, mais l'esprit vivifie. Cet esprit qui vivifie toutes choses dans la création, c'est cet esprit qui veut aussi nous vivifier. Or, le ministère de la mort, c'est le ministère de la loi, gravé en lettres sur des pierres, a été introduit avec gloire. Souvenez-vous du Sinaï, de cette montagne qui tremblait, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse quand il redescendait de la montagne à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin. Combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Car si le ministère de la condamnation a été gloire, combien plus le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Car aussi, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié sous ce rapport à cause de la gloire qu'il emporte de beaucoup. Car si ce qui devait prendre fin a été introduit avec gloire, bien plus ce qui demeure subsistera-t-il en gloire. Ayons donc une telle espérance. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que nous l'avons? nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur sa face pour que les fils d'Israël n'arrêtassent pas leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin, mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé. Et quand est-ce qu'il se lève, ce voile? Il prend fin en Christ. Quand il se tourne vers Christ, ou quand on se tourne vers Christ, ce voile que nous avions en lisant les Écritures prend fin. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. C'est beau. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, et c'est spécialement ce verset que je laisse, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et bien que Dieu nous donne de pouvoir réaliser ses paroles. Maintenant, mes amis, ayant lu ce texte, nous allons simplement répondre à ces questions et ne vous inquiétez pas, demain matin, nous ferons comme nous l'avons fait cet après-midi, vous aurez l'opportunité de nous donner, au fond, un rapport, un bref rapport de vos entretiens de ce soir. Mais comme nous avons peu de temps, bien nous remettons ça à demain matin et vous donnerez les rapports de la session de ce soir et de la session de demain matin. Maintenant, je cherche simplement à répondre à ces questions du samedi soir. La première, à la lumière du Saint-Esprit et de toutes les Écritures, pouvons-nous trouver une réponse à l'origine du mal? Nous avons lu le chapitre 3 de la Genèse qui nous parle du serpent. Et qui est ce serpent? C'est Satan. Est-ce que nous en sommes sûrs? Oui, parce que toute l'Écriture nous révèle cela. Et regardez l'apôtre Paul dans le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, il dit ceci, verset 2, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. » Je crains que vos pensées ne se soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Et voyez-vous, je crois que nous devons revenir à cette simplicité à l'égard du Christ. Ne nous perdons pas dans des discussions. Écoutons le Christ, revenons à la simplicité à l'égard du Christ, et que le Christ seul ait autorité sur nos vies. C'est de cela que nous avons besoin. Maintenant, si nous arrivons à la dernière page de aux dernières pages de l'Apocalypse, au chapitre 12e, l'apôtre Jean à Patmos a vu un combat dans le ciel, verset 7 du chapitre 12, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et vous pouvez retrouver tous les versets à travers la Bible. Celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges, donc les démons, furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Eh bien, voilà. Qui nous parle de Satan, que, je le disais hier, des théologiens nous écrivent ou disent que maintenant on a liquidé le diable. Liquidation du diable. Un grand jésuite d'Allemagne a publié un livre là-dessus. Eh bien, liquidation du diable, non, c'est pas la liquidation, il est bien là, Satan. Et j'en viens à Jésus, au témoignage de Jésus. Est-ce que nous avons une idée, justement, de vous répondre à cette question de l'origine du mal? Je vous cite le chapitre 8 de l'évangile de Jean, pour que ce soit la parole de Jésus qui vous convainque. Jésus parle avec les pharisiens au chapitre 8 et il leur dit au verset 43 « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Voilà un commencement. Donc dès le commencement. « Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et il leur disait, qui d'entre vous me convaincra de péché? Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, parce que je veux que vous soyez convaincus que c'est la parole qui nous éclaire sur ces questions de l'origine du mal, au chapitre 3 de la première épître de Jean, vous lisez ce passage, au verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher, mais il ne pratique pas le péché. Le péché est pour lui comme un accident. Si je ne regarde pas au Seigneur, je sais que je peux pécher et que je pêche. Mais si je regarde dans les yeux de Jésus, non. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Ce n'est pas possible. Tant que j'ai mes regards fixés sur Jésus, je sais que je suis gardé du péché. Mais si je regarde ailleurs, tout est fait pour me faire pécher. C'est vrai ou c'est pas vrai? jusqu'à la mode. Parce que nous sommes des hommes, hein?
Bien sûr.
Eh bien, une femme qui se respecte et qui est vraiment dans la pensée du Seigneur, elle pense aussi à cela. Et quand elle s'habille, eh bien, elle ne veut pas être une occasion de chute pour un homme. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être mal fagotée. Pas du tout. C'est pas de ça qu'il est question. Mais l'apôtre Paul a des données très précises que la femme doit être vêtue avec pudeur et modestie. Pudeur, c'est assez, modestie, c'est pas trop. N'est-ce pas? Il y a un équilibre que l'on peut tenir et on se dit, est-ce que je plais au Seigneur? Est-ce que j'aimerais rencontrer le Seigneur? Est-ce que le Seigneur serait heureux de me voir comme ça? Alors, il nous voit, hein, ne vous en faites pas. Il vous voit. Puis, tout est filmé, hein, là-haut. Et vous devrez assister un jour à ce que vous étiez sur la terre. Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Pas pour être jugés quant à nos âmes, mais quant à nos œuvres, quant à notre attitude. Notre vie, pour qui la menons-nous? Pour séduire? Comment séduire un homme en 24 heures? Bon, c'est bien facile. Mais il y a des petits bouquins comme ça. Si c'est cela vos lectures. Je comprends que vous êtes sur une pente glissante. Mais moi aussi j'y serai. Et je sais très bien que on nous dit, mais on peut tout lire, on peut tout voir, on peut tout entendre, on peut aller n'importe où. On est toujours blanc. Quand vous vous mettez dans un tonneau de suie, vous sortez blanc. C'est pas vrai. Votre environnement, qu'est-ce que c'est? Soyons réalistes. Et retrouvons la simplicité quant au Christ. J'en étais où? Aidez-moi. Dans notre lecture. Comment? Jean 3:8. Bon. Alors, celui qui pratique le péché est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Alors attention. Car ce qui vous a été annoncé, est-ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à qui? À Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Etc. Eh bien, voilà des textes qui nous prouvent que pour Jésus, et il nous l'a défini, l'origine du mal se trouve dans le cœur d'un être qui est appelé Satan. Et alors, d'autres passages, je vous ai déjà cité le chapitre 14 d'Ésaïe, le chapitre 28 d'Ézéchiel, nous voyons que c'était un ange chef des anges, un chérubin oint qui dominait sur cette première création que Dieu avait fait parfaite. Et c'était les habitants des cieux, les anges, qui avaient la responsabilité, la gérance de tout cela. Mais Dieu ne voulait pas donner aux anges cette responsabilité définitive. Dans son plan, il allait créer un être, l'homme, et qui allait être prédestiné à être semblable à l'image de son fils, donc supérieur à qui ? Aux anges, supérieur à Lucifer. Et alors, on peut bien penser que c'est là l'orgueil et la jalousie, et il a cru qu'il pouvait s'opposer à Dieu. Or, le diable n'est qu'une créature. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. De sorte que se révolter contre Dieu, et c'est ça, le mal n'avait pas d'existence propre. Le mal n'est pas éternel. Il est né dans le cœur de cet être. Bien sûr, nous ne pouvons pas expliquer, mais nous nous courbons. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il reste évidemment des mystères. Mais la parole nous enseigne que l'origine du mal s'est trouvée dans cet être. Et c'est lui qui a placé au fond toute la création dans cet état d'assujettissement. Ce n'est pas le péché d'Adam où il y a contribué maintenant, mais celui qui a mis la création dans cet état de servitude que nous trouvons dans le chapitre 8 des Romains, c'est donc Satan qui est à l'origine du mal. Et nous lisons cela dans le chapitre 8 des Romains où il est dit, verset 19, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Et puis, il est parlé de l'intercession de l'Esprit, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède dans des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc là, nous voyons une des actions du Saint-Esprit, aussi bien dans la création que dans le cœur des croyants. Je ne vais pas plus loin sur cette question, vous la méditerez, et vous aurez vous-même par la lecture de la parole et par l'esprit une conviction. Je passe à la deuxième question. Selon Romains 8, 20, donc qui a assujetti la création à la vanité et à la servitude, c'est donc, en premier lieu, Satan, le prince de ce monde. C'est Jésus qui l'appelle le prince de ce monde. Mais qui est-ce qui aurait dû être le prince de ce monde? C'était l'homme. D'abord, hein. Mais l'homme ayant désobéi, qui est-ce qui a pris sa place maintenant? C'est Satan. Il est le prince de ce monde. Jésus l'appelle le prince de ce monde, ailleurs il l'appelle par Paul le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui opère dans les fils de la désobéissance. Et il a menti, n'est-ce pas, quand il dit « Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal », bien sûr, il allait connaître le bien, mais sans pouvoir l'accomplir, tandis qu'il ferait le mal. il y a la conscience humaine qui peut dire ça c'est bien, mais nous n'avons pas la force d'accomplir le bien, mais toujours nous sommes portés à faire le mal. Troisième question. Qu'avait apporté le Saint-Esprit dans l'œuvre des six jours exposés au chapitre premier de la Genèse? Bien là, vous pouvez méditer sur ce que, dans l'œuvre des six jours, le Saint-Esprit qui était là, qui planait au-dessus des eaux de ce tohu-bohu où était la terre, après, semble-t-il, le jugement et la chute du diable, eh bien, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a apporté? Dans le tohu-bohu, il a apporté l'ordre. Il a apporté la lumière, la beauté dans toute la création, peu de choses qui sont vraiment belles, qui sont admirable. Bien, tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit que vous voyez déjà dans la création. Il a apporté des fruits, le fruit de l'Esprit. Il n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que c'était le fruit de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix. Quand Dieu a créé toute chose, dans tous les jours de la création, vous pouvez voir tout ce que le Saint-Esprit a donné. On voit cela dans la création, quand on a encore les yeux ouverts. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais non, ce qui nous enseigne, c'est le monde. Alors, si c'est la mode unisexe, tout le monde veut être unisexe. Puis, vous pouvez aller plus loin. Quelle est la place que Jésus a vraiment dans nos cœurs? Nous parlons de Jésus, mais au fond, est-ce qu'il a la première place? Est-ce qu'avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose, nous pensons à Jésus? Non, mais Jésus, c'est notre sauveur. Il est mort pour nous sur la croix, il a payé le prix. La grâce, c'est gratuit, la grâce. Vous croyez? Quel prix! Mon Seigneur a payé pour que je sois sauvé, lui, il est mort. Et moi, je vivrai comme je pense, en étant heureux que Jésus soit mort pour moi. C'est abominable. Notre vie doit être imprégnée de la pensée du Christ. Alors, vous allez dire, ben alors, j'aurai plus de joie. Il n'est pas votre joie, lui? Il n'est pas votre paix, lui. Il n'est pas votre confiance. Vous ne voulez pas vous rappeler ses paroles et avoir un changement complet dans votre vie de prière? Comment est-ce que c'est que nous prions en récitant une prière? La prière dominicale, mais elle est devenue une redite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas? Un moulin à prière. Non, il allait donner un exemple de prière. D'abord, nous pensons à Dieu, le Père, qui est aux cieux. Nous voulons que son nom soit sanctifié. Or, aujourd'hui, son nom est blasphémé. On se rit de ce Père éternel, le ciel est vide. Mais quand il y a une catastrophe, tout de suite, alors, un point se dresse contre le ciel. Comment est-ce que Dieu, s'il existe, peut permettre de telles choses? Ah, vraiment, chers amis, nous sommes des sacrés menteurs. Et nous sommes bien légers. S'il ne pensait qu'à lui-même, vous savez ce qui arriverait? C'est un texte biblique, dans Job. S'il ne pensait qu'à lui-même, toute chair expirait ensemble, et moi le premier. Je le sais. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, et qu'il retirait son esprit et son souffle, ce serait le grand silence sur la terre. Mais Dieu est miséricordieux, il patiente. C'est le temps de la grâce. Maintenant, j'arrive à la quatrième question. Comment apparaît la sainteté de Dieu en Éden? Voyez-vous, quand on y pense, là, en Éden, Dieu avait donné un logis à Adam. C'était pas réduit. C'était un jardin. C'était le grand air. Qu'est-ce qu'il lui donnait? La nourriture, l'herbe, les fruits, tout était donné. Voilà le Dieu saint qui aime l'homme. Mais quand l'homme désobéit, alors si Dieu est Dieu, qu'est-ce qui doit se passer? Il y a un jugement. Il y a un jugement, on ne peut pas faire n'importe quoi et être impuni, ce n'est pas vrai. Quand Dieu est venu dans le jardin, toujours plein de bonté et de compassion pour sa créature, lui apportant de nouvelles grâces, et qu'il ne trouve plus Adam parce qu'il a désobéi, il l'avait placé non pas pour dans un travail pénible, il devait simplement cultiver le jardin et le garder. Donc il y avait un danger. Il devait garder le jardin. Et celui qui s'est présenté, c'était Satan sous la figure du serpent. Et il s'est attaqué à qui? À Adam d'abord? Non, à Ève. Mais qui était le responsable? La femme certainement a été séduite, il l'a dit. Et puis elle a entraîné son mari. Mais le responsable, c'était Adam. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5. C'est l'homme qui est responsable. Mais la femme a été séduite et a entraîné l'homme dans sa chute. Alors, on voit que Dieu les fait comparaître l'un après l'autre. Dans sa sainteté, il ne passe pas l'éponge, mais il questionne. Alors, il y a d'abord, la question est posée à Adam. Adam rejette la faute sur sa femme. Dieu parle à la femme rejette la faute sur le serpent m'a séduit, et puis, alors, le Seigneur arrive au serpent, parce que tu as fait cela, et alors qu'il doit juger, eh bien, en même temps, il fait une promesse de miséricorde pour le couple déchu. Il met l'espérance dans leur cœur. N'est-ce pas merveilleux? Qu'un jour, Satan n'aura pas le dernier mot. Mais il annonce que la postérité de la femme, c'est qui la femme? C'est Marie, incontestablement. C'est la postérité de la femme. Jésus est né d'une femme, mais de Marie, conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge Marie. Mais la postérité du serpent, c'est-à-dire Satan lui-même ou ses agents, blesserait le Seigneur au talon, c'est-à-dire l'atteindrait dans son humanité. Le talon, c'est ce qui nous fait toucher la terre. Eh bien, Jésus a été atteint dans son humanité, il a été crucifié en tant qu'homme, parce qu'il a donné sa vie. Mais c'est en entrant dans la mort que Jésus a lié l'homme fort, comme il le dit lui-même, et qu'il a pillé ses biens et qu'il a vaincu Satan. Satan a eu la tête écrasée. Donc Satan est déjà vaincu. Et nous devons le traiter comme un vaincu. Et nous devons lui dire, comme Jésus nous l'a appris, quand il est là pour nous tenter, arrière de moi, Satan. Et à la parole, Satan se retire. Il ne peut pas résister. Il fuit. Mais, hélas, bien souvent nous faisons tout pour qu'il soit là. Nous ne le faisons pas fuir. Nous sommes bien copains avec lui. Voyez-vous, Satan n'a pas du tout la figure qu'on a donnée dans le Moyen-Âge, hein, avec des cornes, une queue et des pieds fourchus. N'est-ce pas? Satan, il a la figure que le monde aime. N'est-ce pas? Il est le séducteur. Et puis, il est très religieux. Hein, s'il y en a un qui est religieux, c'est Satan. Il n'a jamais nié l'existence de Dieu. Et les démons, même, ils frissonnent devant nous. Mais nous, nous croyons tellement plus forts. Eh bien, pénétrons-nous des pensées de la Bible. Et puis, remercions le Seigneur qui a mis l'espérance dans le cœur de ce couple fautif. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a revêtu Adam et Ève, leurs feuilles de figuier. Eh bien non, ce n'était pas suffisant. Dieu, dans son amour, a revêtu Adam et Ève. Et c'est un premier sacrifice qui est mentionné là. Et Caïn et Abel connaissaient cela. Et Abel a compris qu'on ne pouvait s'approcher de Dieu que par le sacrifice et le sang versé. C'est pourquoi l'offrande d'Abel était plus excellente que celle de Caïn qui a pensé qu'il pouvait offrir les fruits de la terre, les fruits du sol maudit. Et il n'a pas été agréé. Mais pourtant, Dieu a parlé aussi à Caïn. Alors, je termine. Quelle fut l'œuvre du Saint-Esprit au jour de la chute du premier couple? Eh bien, le Saint-Esprit les a convaincus de péché, mais en leur donnant cette promesse, il a mis une espérance dans leur cœur. Et tous les hommes de l'Écriture sainte dont nous avons l'histoire ont gardé cette espérance dans leur cœur. J'aime entendre Jacob sur son lit de mort, quand il a tous ses enfants autour de lui, il s'arrête entre ses bénédictions ou ses reproches qu'il fait à ses enfants, et il dit, j'ai attendu ton salut. Autrement dit, j'ai attendu ton Jésus. N'est-ce pas merveilleux? J'ai attendu ton Jésus. Les saints de l'Ancien Testament ne sont pas sauvés d'une autre manière que ceux du Nouveau Testament. Ceux de l'Ancien Testament regardaient vers celui qui devait venir écraser la tête du serpent. Nous, nous regardons à celui qui est venu et qui reviendra. Eh bien, que ce soit dans cette espérance que nous puissions nous endormir ce soir. Et si c'était cette nuit qu'il revenait, est-ce que vous seriez heureux d'avoir la suprême et la sublime rançon? Ou bien vous dites, non, laisse-moi encore une semaine. Ne reviens pas avant. Il faut que j'arrange mes affaires. Parce que nous ne vivons pas au jour le jour. Quelqu'un a demandé qu'on joue un jour à la fois ce matin. Mais c'est aujourd'hui que nous devons être prêts. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Sois béni, ô Dieu notre Père, de nous permettre de méditer ainsi ta parole. Nous le faisons dans une immense faiblesse, mais et nous le faisons dans la reconnaissance, et nous voulons te dire, comme Jérémie, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Et prépare-nous pour la journée de demain, afin qu'elle soit ta journée, la journée que l'Éternel a faite. Pour la gloire du Père au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous rappelle que, mes chers amis, aujourd'hui, dernière journée de cette retraite, j'aime à vous saluer en vous rappelant la parole du psalmiste au psaume 118 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie, comme nous voudrions que tous puissent expérimenter ces paroles et dire, bien oui, c'est la réalité. Cette dernière journée est pour moi une journée d'allégresse et de joie. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes sauvés. D'abord, je pourrais vraiment me tromper. Ce qui compte, c'est que le Seigneur vous remplisse et que votre visage soit le reflet de votre cœur et qu'on voit en vous la joie et l'allégresse. Non pas que nous donne des circonstances heureuses, mais une personne qui a ravi nos cœurs et qui vit non seulement à côté de nous ou devant nous, derrière nous, mais qui vit en nous. Un Christ, non pas extérieur à notre vie, dont nous aurions une connaissance plus ou moins historique, mais le Christ vivant aujourd'hui. Alors, la parole avec laquelle Jésus lui-même nous a tous accueillis en ce lieu vendredi soir, vous l'avez sur ce tableau. Courage, je suis, ne frémissez pas ou n'ayez point de peur. Nous avons vu hier soir quand la peur a commencé. Mais quand on est réconcilié avec Dieu et qu'on connaît son amour, nous n'avons plus de peur, car il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Comme nous aimerions que vous puissiez quitter ce lieu sans aucune crainte, et même retourner à la maison sans aucune crainte. « Je suis » était là aussi, dans vos demeures, auprès de ceux dont vous avez été séparés. N'ayez aucune crainte. Pour votre retour, ne frémissez pas. Les routes sont dangereuses. « Je suis » sera avec vous. Laissez-le au volant et lui ne brûlera pas de feu rouge ni de stop. Il sait s'arrêter. Et votre conduite sera celle du Seigneur. Il nous a accueillis en nous demandant de ne pas avoir peur. Puis, hier matin, il nous a donné un mot d'ordre. Il nous a dit que l'Esprit de Dieu, qui est le sujet qui nous occupe dans ces journées, l'Esprit de Dieu qui nous a donné ne nous rend pas timides. Mais, au contraire, cet Esprit nous remplit de ces trois choses. La force, L'amour est la sagesse ou la maîtrise de soi. C'était le mot d'ordre de hier. Est-ce que nous avons expérimenté quelque chose de ça? Est-ce que nous avons cru que l'esprit dont nous parlions était un esprit de force, malgré notre faiblesse? Et surtout, est-ce que vous avez compris que c'est quand vous êtes faible qu'alors vous êtes fort? C'est pourquoi je l'ai dit souvent, je déteste quand j'entre dans une salle qu'on me dise « Alors, monsieur Racine, vous êtes en forme ce soir ?» Je déteste cela, parce que le jour où je me croirai en forme, eh bien, ce sera un échec. Ce sera lamentable, ce sera misérable, parce que mon Seigneur, c'est quand il était sans forme, ni éclat, cloué sur une croix, qu'il m'a vraiment sauvé. Et quand nous avons compris cela, ce qu'on demande au Seigneur, c'est que lui se présente aux âmes. Ce n'est pas que moi, je sois vu en forme, mais que Jésus soit honoré, Jésus soit glorifié, que dans vos consciences, vous vous disiez, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas à lui. C'est la force du Seigneur. Moi, je ne suis rien, je ne sens que ma misère, je ne sens que ma faiblesse, que mon indignité, mais je me suis quitté, et c'est pour ça que je suis heureux, parce qu'avec moi-même, j'étais malheureux. Et le jour où vraiment on a compris qu'on peut se quitter, et que le Seigneur est venu pour nous donner la possibilité d'être à lui entièrement, et de pouvoir dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, jour après jour, je ne le vis pas selon la chair, mais je le vis dans la foi en un autre, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a été lui-même crucifié pour moi. Quelle chose merveilleuse. Vivre de la vie d'un autre. Alors, il n'y a plus de gloire pour nous. On ne peut plus se glorifier. Toute la gloire revient au Seigneur. Et je lui ai demandé alors, quelle est maintenant la dernière parole avec laquelle tu voudrais que je laisse nos bien-aimés ce matin? Alors, il m'a dit intimement que ce serait une promesse. Alors, vous avez là, le 5 juin, une promesse. Et c'est de nouveau une de ces paroles à lui dont vous pouvez croire. C'est pas Racine qui vous a dit cela. Les racines sont sous terre. Hein, parce que dès qu'elles se montrent, on s'en couvre et on tombe. Alors, souvenez-vous de cela. Ne parlez pas de moi. Parlez de lui, de celui que vous avez rencontré, de celui qui vous est devenu personnel. Et puis, ayez cette foi quotidienne en toutes ces promesses. C'est cela qui change notre vie de prière. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans une circonstance ou dans une autre. Et puis vous lui dites, Seigneur, tu as dit cela, alors je le crois. Et puis vous vous emparez de cette promesse. Vous allez au Père. C'est cela demander au nom de Jésus. Puis vous lui dites, voilà ce que ton Fils a dit, Père. Alors, exauce-moi, et vous serez exaucé, et vous aurez une vie de louange. C'est pas parce qu'on chante et qu'on rechante, et qu'on part en fusée, qu'on loue le Seigneur. Parce que vous savez, on peut très bien créer une atmosphère avec des petits cantiques, des redites, on redit toujours la même parole. C'est ce que le monde fait. Et alors on a des chants. Mais nous ne cherchons pas à avoir des chants. Ce qui compte, c'est d'être vrai. Parce que combien souvent, on part en fusée, puis on se désintègre, puis on retombe comme ça. Et c'est dangereux d'y retomber. Alors, mes bien-aimés, souvenez-vous de cette promesse que le Seigneur vous fait. Si quelqu'un m'aime, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, je suis maintenant un de ceux qu'il aime? Or vous me direz, mais je me souviens de Pierre. Pierre avait renié le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Même tu. Il ne lui a pas parlé de sa faute. Alors, ne pensez pas que le Seigneur va vous parler de votre faute. Il vous demande, est-ce que tu m'aimes? Si quelqu'un m'aime. Vous ne savez pas que c'est beau? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça ne suffit pas de dire, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais si c'est vrai que vous l'aimez, vous garderez sa parole. Qu'est-ce que nous vous avons apporté ces journées? Sa parole. Vous en êtes témoin. Ce n'est pas nos pensées, c'est sa parole. Et sa parole, vous l'avez avec vous, vous repartez, vous pouvez contrôler, c'est ce que nous vous avons dit. Et dans cette parole, où était dans mon imagination? Et alors, la conséquence, moi je trouve ça admirable, et j'aime bien le dire ici, dans cette maison de Marguerite Diouville, car elle a eu une révélation tout à fait particulière de ce que le Père pouvait être pour elle au cours de ses 70 ans de vie, et elle aimait le Père parce qu'elle connaissait son amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la parole qu'elle connaissait, eh bien, elle a essayé de la vivre, et mon Père l'aimera. Et vous savez, si vous avez cette certitude d'être aimé par le Père, c'est quelque chose de merveilleux. Quelle idée vous faites-vous de l'amour du Père? Et si vous voulez le savoir, regardez comment il aimait son fils. Comment le Père a aimé le Fils. Eh bien, si vous avez cette vision de la manière dont le Père aimait le Fils, vous saurez comment le Père vous aime. Car Jésus lui-même a dit à son Père, « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Est-ce que vous croyez? Que le Père ait aimé Jésus, d'accord, hein, mais que vous soyez aimés du Père comme était aimé Jésus. Ça nous bouleverse. Mais c'est ça qui est vrai. C'est parce que je ressens mes sentiments qui sont vrais. Ce qui est vrai, c'est sa parole. Et la foi s'empare de sa parole, elle croit ce qui est dit, et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous viendrons à lui. C'est pas assez merveilleux? On parle toujours d'aller à lui. Mais c'est lui qui veut venir à nous. Et c'est tout autre chose encore. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et vous savez, si on se dit, mais chez moi, c'est encore un peu une étable. Ben oui, ben il est dans une étable. Mais la question c'est, laissez-le aller dans votre étable. Il va tout purifier lui-même. Et il habitera en vous. Christ en vous. Ce sera l'espérance de la gloire. Nous ferons notre demeure chez lui, ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité tout entière, dans l'homme tout entier, qui est esprit, âme et corps. Le Père, dans notre esprit invisible, Dieu est esprit. Le Fils, dans notre âme, notre personnalité. Quelle doit être notre personnalité? Le Christ. Non plus moi, mais lui, le Christ dans notre âme. Et pour maintenir nos sens dans la domination de l'âme et de l'esprit, c'est le Saint-Esprit dans nos corps. Je n'invente rien, puisqu'il est dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, vous pouvez partir avec cette merveilleuse promesse que le Seigneur vous fait, et il continuera de vous bénir. Mais redevenez simple et croyez ce que lui vous dit. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous combles avec les promesses de ton amour. Tu ne veux pas rester un Père qui est aux cieux, retiré et qui ne s'occupe pas du monde. Tu veux être en nous. Tu veux faire ta demeure en nous. Chacun de nous peut être ton temple. Oh, que nous soyons heureux de te connaître. De te connaître d'une connaissance et qui n'est pas une information sur toi, mais d'une connaissance qui est une relation, une habitation. Pour ta seule gloire, bénis-nous dans cette dernière journée, prends-nous vraiment en main, et que le dessein bienveillant de ton cœur pour nous, au sujet de cette retraite, ait son plein accomplissement dans chacune de nos vies, comblée par Jésus-Christ qui veut avoir la première place. À toi la gloire, l'honneur et nos hommages. Béni sois-tu. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous à